nous te louons ce soir.
Père, nous prions dass du uns einen Geist der Weisheit und der Offenbarung
en particulier que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation
kennen,
pour te connaître encore beaucoup plus.
Zeig uns, was vor allem auch in deinem Herzen ist.
Et surtout, montre-nous ce qu'il y a dans ton cœur.
Amen. Lob den Herrn. Ja, Herr Jesus, es ist wieder eine Konferenz.
Une nouvelle conférence.
4 Monate ist es her, da hatten wir die letzte.
Cela fait 4 mois qu'on a
und
eu la
wieder
dernière
sind wir alle zusammengekommen
nouveau, on est
für eine
réunis,
Zeit, wo wir den
pour
Herrn wirklich
avoir un moment
berühren
pendant lequel nous voulons toucher le Seigneur.
In der letzten Konferenz,
lors de la dernière conférence, le dernier message, le thème, si vous souvenez, le thème c'était l'époux et l'épouse.
Und heute Abend beginnen wir mit Braut.
Et ce soir, nous allons commencer par l'époux et l'épouse. Et avez-vous déjà regardé le dernier message? Ça va terminer avec l'esprit et l'épouse qui parlent en unité. Effectivement, c'est ça que le Seigneur a dans son cœur, c'est son épouse et les noces. Le titre ce soir, c'est « Christ désire son épouse qui lui correspond ».
Oh, Herr. Ja, wir sind schon im Jahre 2019.
On est dans 2019, donc beaucoup de temps a passé depuis que le Seigneur est monté en ascension. Et en fait, nous attendons son retour. Nombreux sont ceux parmi nous qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps et qui attendent son retour. Et j'espère que beaucoup de jeunes aussi ne diront pas « Oh, il faut que j'expérimente ceci, cela, je vais quand même me tenir à l'écart pendant un moment. » Il ne faut pas que nous raisonnions comme ça, parce que dans son cœur, en tant que l'époux, il y a ses noces. Il a un désir de se marier. Il a un grand désir que son épouse soit préparée. Et c'est ce que je vais considérer à l'aide de ces versets qui sont indiqués là-dessus avec vous tous. Regardons tout d'abord un peu dans le passé. Nous allons retourner dans le passé lointain, lorsque Dieu créa l'homme dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. À cette époque-là, Dieu, il avait déjà créé Adam de la terre. Il avait soufflé déjà dans ses narines le souffle de vie et il devint une âme vivante. Il lui a même donné un jardin en lui disant qu'il doit préserver, cultiver ce jardin en lui indiquant en particulier comment se comporter face à deux arbres. Mais, un grand mais, Adam était toujours seul. Bon, il y avait Dieu, mais autrement, personne. Et puis, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et je fais une pause déjà ici à ce point. C'est une phrase merveilleuse. Pendant cette conférence, ce qui me tient à cœur, c'est que la parole que nous lisons touche notre cœur. Dieu nous a donné sa parole, non seulement pour la lire ou pour chercher des trucs intéressants, comment ça s'est passé et ce qui viendra à l'avenir, mais il a surtout donné sa parole afin que sa parole nous touche, devienne notre nourriture et même qu'elle nous transforme. Et ce qui est particulièrement précieux, c'est que par sa parole, nous avons la possibilité de connaître ce qu'il a à cœur. Comment pouvons-nous connaître Dieu sans connaître sa parole? Et ici, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dans Romains 5, 14, ce verset montre bien que Adam est l'image de Christ, celui qui devait venir. Et Paul, il a découvert, il a écrit, et Ève, la femme que Dieu fit pour lui, est une merveilleuse image de l'épouse, de l'Église. Voyons comment ça se passe, comment c'est décrit. Donc Dieu, il s'est proposé de faire une femme pour Adam, qui soit semblable à lui. Lors d'un mariage ou lorsqu'un homme cherche une épouse, il est bien important que le couple soit semblable, l'un soit semblable à l'autre. Pour un mariage qui fonctionne bien, je ne peux que recommander à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, recherche quelqu'un qui soit semblable à lui. Peut-être pas au point même comme c'est fait dans la Bible, mais cherche quand même le meilleur chemin. Alors, bon, Dieu s'est proposé de donner une femme. Alors, il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alors, on voit que Dieu, il crée des animaux, les amène vers Adam, mais en fait, n'oubliez pas qu'on était en train de chercher une aide. Alors Dieu lui montre un animal, un mouton. Adam, il dit, bah, c'est un mouton. Et c'est comme ça qu'il a donné des noms à pas mal d'animaux. Et puis, on ne trouva point d'aide semblable à lui, dit la parole. Essayez de vous mettre dans la peau d'Adam. Il nomme un animal après l'autre. Dieu amène encore un animal. Alors, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il amène des oiseaux à Adam. Adam, il ne sait pas voler, hein. Donc, Dieu lui présente un animal après l'autre, mais rien de semblable pour Adam. Et probablement, au bout d'un moment, je crois que Adam était même triste. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? Où est celle qui est semblable à moi? Mais louez le Seigneur. Le Seigneur, il a trouvé une solution. Au bout d'un moment, il fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma format, dit la parole, ou construit en allemand, il construit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Quelle action merveilleuse! Avant, il avait toujours pris de la terre pour former les animaux, mais maintenant, cette fois-ci, il prit une partie de l'homme pour construire, pour former quelque chose de semblable à lui. Et Adam, il a réagi d'une façon merveilleuse. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Merveilleux, c'était merveilleux pour Adam déjà. Il était heureux. Finalement, il a trouvé une personne semblable à lui, avec laquelle il pouvait parler, à qui il pouvait donner son amour, et inversement. Et cela, c'est une image merveilleuse de Christ et l'Église. Ce profond sommeil d'Adam représente la mort de Christ. Et sur la base de ce sommeil de la mort de Christ, Christ est monté, il est sorti en tant que l'Esprit qui donne la vie. Et peu de temps après sa résurrection, quelques jours après sa résurrection, l'Église a été créée à Jérusalem. Quelle image! L'Église, c'est quelque chose qui vient 100% de Christ. Autrement, c'est pas l'Église. Sinon, c'est quelque chose que tu peux appeler par un nom quelconque. Tu peux donner des noms à des groupements chrétiens sans problème. Un nom ne fait pas d'une chose ce qu'elle devrait être. Or, par son esprit, l'Église vient en existence. Et il faut comprendre pendant ces jours-ci que ce que le Seigneur désire, ça peut se faire uniquement par son esprit. Une fois que nous avons appris cela, ce sera très utile pour le Seigneur et pour nous-mêmes. Nous avons tous cette tendance, nous sommes enclins de faire beaucoup de choses nous-mêmes, par nos propres forces. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Nous travaillons toujours par la puissance ou par la force. Si nous sommes les acteurs, le Seigneur ne pourra pas faire grand-chose. Mais une fois que nous sommes arrivés au bout et que son esprit pourra agir, alors il pourra créer ce qu'il aime. Voilà, ça c'est le passé, cette aide semblable à lui. Important de retenir cet événement du passé. Maintenant, regardons vers l'avenir avec Apocalypse 19, verset 6. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous Soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Voilà, ça c'est notre partie, notre activité. Son épouse s'est préparée. Il est donc important pour nous d'être actifs. C'est pas par la puissance ni par la force, mais tout en étant actif. C'est pas une contradiction. Et il lui a été donné de se revêtir. Laisse le Seigneur te donner. Laisse le Seigneur te donner beaucoup au cours de cette conférence. Ayons cette attitude pour dire, Seigneur, donne-moi beaucoup de toi, donne-moi beaucoup de ton esprit, beaucoup de ta nature. Seigneur, remplis-nous de toi-même. C'est toujours une bonne prière, non seulement lors de conférences, c'est une prière pour tous les jours. Remplis-moi de toi. C'est une bonne prière tôt le matin. Remplis-moi de toi ce jour-ci. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc il y a aussi des faits et des justes, des œuvres justes que nous devons faire, mais faisons-les par le Seigneur en nous, par l'Esprit en nous. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Je vous dis, franchement, moi j'aimerais être à cet endroit-là et être heureux, heureux, c'est mon désir d'être présent, d'être invité à ce festin de noces. Et j'espère que c'est aussi dans vos cœurs que vous avez le même désir, car c'est pas tous les chrétiens qui y sont invités. Il y a des doctrines selon lesquelles chaque chrétien faisait partie de l'épouse. C'est pas correct. Vérifiez dans la parole, dans Matthieu 25, vous voyez qu'il y a des vierges sages et des folles. Il y a celles qui sont prêtes pour le festin de noces à temps, tandis que les autres le loupent. Donc, tout dépend comment nous marchons avec le Seigneur, comment se présente notre vie quotidienne avec le Seigneur. Et cette conférence, il faut qu'elle nous encourage de fortifier notre marche avec le Seigneur.
Wunderbare Mitteilungen, die alle in diese Richtung gehen. Herr, stärke unseren Geist.
Et tous les messages servent à fortifier notre marche en esprit. Seigneur, agis de sorte que nous nous préparions pour faire partie de cette épouse. Voilà, ça c'est l'avenir. Nous devons l'avoir en vue, être des personnes sages, parce que ça tient à nous si nous serons présents à ce festin de noces. Ça ne tiendra pas au Seigneur. Il veut inviter tout le monde, mais il peut nous inviter uniquement lorsque nous y serons seulement si nous collaborerons avec lui. C'est le point C. Moi, j'en ai déjà vu de toutes les couleurs, franchement.
Man kann mit dem Herrn auf allerlei Weise wirken.
on peut coopérer avec le Seigneur de beaucoup de manières, parfois même sans coopérer, si vous voulez bien me comprendre. Mais je vais m'expliquer tout à l'heure. Je me suis demandé pourquoi y a-t-il dans l'Ancien Testament un livre merveilleux avec 8 chapitres comme le Cantique des Cantiques. Souvent, je me suis posé la question, mais Seigneur, ce livre-ci, ça rentre pas, ça convient pas à l'Ancien Testament. Il y a tous les prophètes qui doivent toujours exhorter le peuple têtu, obstiné, désobéissant. Jérémie, Esaïe, les petits prophètes, ils devaient toujours prêcher le jugement. Et puis du coup, on trouve ce livre, un livre comme le Cantique des Cantiques, rédigé par la même personne comme Ecclésiaste. Incroyable. Vous avez déjà lu les deux l'un après l'autre. Nous allons plutôt lire le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est le cantique supérieur qu'on puisse trouver. C'est le cantique de tous les cantiques. Les psaumes sont déjà 150 cantiques, mais à mon avis, c'est mon opinion, ne sont pas comparables avec le Cantique des Cantiques. Je me suis imprimé un seul chapitre, chapitre 4 de ce cantique. Tu es belle, mon ami. Tu es belle.
Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Was ist das für eine Rede?
Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Etc., ainsi de suite. Comment un auteur peut-il rédiger un tel texte si merveilleux qui reflète une si belle relation entre l'époux et l'épouse, Salomon et Sulamite, l'homme et la femme? Salomon, Sulamite, c'est le même nom d'ailleurs, au féminin et au masculin. Pourquoi est-ce que ça s'est écrit à l'Ancien Testament, un peu isolé? Moi, je crois que le Seigneur, à cette époque déjà, voulait nous montrer quelque chose et pas attendre le Nouveau Testament. En fait, il voulait nous montrer comment nous devons traiter notre époux dans le Nouveau Testament et comment nous, lui, il nous traite en amour. Imaginez, le Seigneur nous a aimés. Imaginez ça, parce que nous, on a parfois un problème avec l'amour. Ceux qu'on trouve sympas, évidemment, on aime. Mais ceux qu'on aime moins, bon, ça dure. Mais le Seigneur, il nous a aimés lorsque nous étions encore ennemis. Là, il nous a déjà aimés. Quel cœur il a. Cela montre quel cœur pur, agréable qu'à notre Seigneur. Et c'est justement cela qui t'en parle, le cantique des cantiques. Le Seigneur aime Sulamite, en dépit du fait qu'elle n'est pas encore transformée au début. Elle n'est pas encore semblable à lui. Au début, ce qu'il dit, je te compare. Un jument qui tire le phare de Pharaon. C'est notre nature naturelle. Et elle tire même le chariot de Pharaon derrière. Mais il aime déjà. Le cantique des cantiques commence par qu'il me baise des baisers de sa bouche. Voilà comment nous sommes transformés. Ça, c'est le chemin. À mon avis, c'est même le seul chemin. C'est par son amour vers nous et notre amour pour lui. Ça, c'est le chemin de la transformation. Autrement, il n'y a que des commandements. Paul, il donne beaucoup de commandements. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne faites pas ceci. Ne pratiquez pas cela. Les épîtres sont pleins de commandements. Et si tu les prends mal, le jour viendra où tu ne les tiendras plus, où tu vas partir, où tu deviendras très légaliste. Mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre ces commandements. Le chemin, c'est par l'amour. Je voudrais vous impressionner par cela. Aller de l'avant avec le Seigneur, ça doit toujours être affaire d'amour. Et le Seigneur, il essaie toujours de gagner nouvellement notre cœur, même si nous sommes distraits. La solution, c'est pas de dire à un frère pourquoi tu n'es pas venu aux réunions pendant les 3 semaines passées. Alors le frère dira bon, si c'est comme ça, je viendrai plus du tout. Mais le Seigneur, il dit plutôt ah, tu es de retour. C'est parce que moi, je t'ai attiré. Tu t'es même pas rendu compte. Le Seigneur, il a une attitude différente. Il est si agréable. Il nous attire. Dans Cantique des Cantiques 4, verset 7, ce verset m'a étonné parce que le Seigneur dit déjà « Tu es toute belle, mon ami ». Et il n'y a point en toi de défaut. Dès le chapitre 4, le Seigneur dit une telle chose. Il y a encore 4 chapitres à venir. Il y en a 8 au total. Le Seigneur, il a une autre perspective que nous. Si nous regardons trop nos défauts, et nous avons tous des défauts, y a-t-il quelqu'un qui n'a plus de défauts? On peut être concentré sur les défauts. Tu vois le défaut des autres, tu vois le tien, tu en parles et tu insistes là-dessus. Ça déprime. À mon expérience, ça déprime. Lorsque tu découvres quelque chose en toi, va au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas. Je l'ai remarqué depuis un moment, mais c'est toujours là. Purifie-moi. Et puis aussi, dans le frère, il y a des choses qui me chaînent. Aide le frère. Enlève ça pour le frère. Dis-le au Seigneur, ça préserve la paix dans l'Église. Si on discute pour de petites choses, ça rend la vie de l'Église un peu amère. Si nous voyons plutôt qu'il n'y a point en toi de défaut, ça fait effet de révolution. Je me demande parfois, mais Seigneur, comment tu peux dire ça? Ton amour est plus agréable que le vin. Les comparaisons qu'il utilise, c'est si merveilleux. Je vous recommande ce livre avant d'enchaîner avec Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, là, nous trouvons le passage où Paul a bien découvert que Adam et Ève sont une image de Christ et l'Église. 5:23 dit, le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ou de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. À cause de la chute de l'homme, l'homme a été la chute d'Adam, l'homme a été corrompu. La nature d'Adam et d'Ève a changé. Ils étaient pécheurs par la suite, ayant la nature de Satan en eux. Et en raison de cette chute, tous les humains sont influencés de la chute. Nous sommes tous pécheurs. Personne ne pourra dire « Moi, je suis meilleur qu'un autre ». N'empêche que le Seigneur, il voudrait former son épouse avec ses humains, une épouse semblable à lui. Imaginez une telle chose. Il veut faire de telles personnes des êtres semblables à lui. Dans Matthieu 5, il me semble que c'est au 48. Jésus s'adressant à ses disciples, il dit, « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Quelle transformation d'un ennemi de Dieu ayant la nature de l'ennemi, être transformé en une personne parfaite comme le Père Céleste. Et c'est la raison pour laquelle la parole dit qu'il doit nous sanctifier. Il y a encore beaucoup de choses en nous qui ne sont pas sanctifiées. Je découvre tout le temps des choses en moi qui ne sont pas sanctifiées. La seule possibilité, c'est de lui dire, « Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi par le bain d'eau de la parole. » Ça, c'est énormément important de réaliser l'importance de la parole. La parole est le moyen par lequel son être, sa substance même, peut être œuvré, travaillé en nous. À Allen, chez nous, récemment, nous avons partagé au sujet de Jean 6, c'est le chapitre où le Seigneur dit que les disciples doivent le manger. C'était une parole très forte en présence des pharisiens qui savaient très bien que l'Ancien Testament interdisait la consommation de chair avec du sang ou encore même encore de boire du sang. Et le Seigneur leur dit, mangez ma chair, buvez mon sang. C'était le moyen le plus fort pour agacer des pharisiens. Moi, je comprends tout à fait que eux sont tous partis. Ils ont été instruits dans la loi dès leur enfance. Et le Seigneur qui leur dit, il faut boire mon sang, sinon vous n'avez pas la vie en vous. Le Seigneur attendait beaucoup partir et puis il a donné la solution. Et il leur dit, écoutez, c'est pas comme vous l'imaginez, c'est différent. Dans Jean 6, au 63, il dit, c'est l'esprit. C'est la parole. Mon sens est dans l'esprit et dans la parole. La parole, c'est le rhéma, c'est pas logos. Les paroles que je vous ai adressées sont esprit et vie. Alors, nous avons partagé lorsque nous plongeons dans la parole. Il y a toujours des frères et sœurs qui viennent à la parole le matin. Et c'est très bien de venir à la parole tôt le matin, de venir au Seigneur pour être rempli de sa parole dès le matin. Ça, c'est le chemin pour être ciblé, pour trouver, pour chercher une parole qui te touche, pas seulement mécaniquement lire une poignée de versets et de dire voilà, c'est fini, j'ai déjà pris et lu. Je dois peut-être lire une vingtaine de versets, comme récemment c'était mon expérience. J'ai lu plus d'une vingtaine et j'ai demandé, Seigneur, où est le verset pour me toucher? Et au bout d'un moment, amen, le verset, je suis tombée sur le verset qui m'a touchée. C'est ce que le Seigneur veut dire lorsque nous venons à sa parole. Il s'agit de le toucher, pas toucher uniquement la lettre morte. Ça ne va rien produire, peu de choses. Mais si nous le touchons, lui et son esprit, c'est merveilleux. C'est ce que le Seigneur désire. Et c'est ainsi qu'il nous purifie par le bain d'eau dans la parole. Et puis, à la fin, j'ai encore mis les versets de Matthieu 25. Et c'est justement le passage sur les vierges, les sages et les folles. 5 sages, 5 folles. La différence entre les deux, vous allez remarquer en lisant, il y a les unes qui se remplissent plus que les autres. Les sages ont également de l'huile dans le vase, tandis que les folles ont de l'huile uniquement dans les lampes. Et nous avons souvent lu que l'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur. Ça se trouve dans Proverbe 20-27, je crois. Si nous avons uniquement le Seigneur dans notre esprit, c'est pas suffisant. Nous avons besoin d'avoir le Seigneur partout dans notre âme. Il veut se propager partout dans notre nature. Et ça prend du temps, beaucoup de temps. Toute notre vie chrétienne sert à laisser pénétrer le Seigneur en nous, chaque jour, en tant que l'Esprit. Jour après jour. À travers de toutes les situations, il y a de bons jours, il y a de mauvais jours. Mais chaque jour doit servir à recevoir le Seigneur tout au long de notre vie. Et toute cette conférence est censée nous aider à connaître l'Esprit, savoir comment nous pouvons le recevoir ou l'intégrer dans toute notre marche, notre vie quotidienne. Louez le Seigneur.